Eh bien voilà, je suis en compagnie de Sylvain Rifflet, invité au théâtre Durans, qui est une scène nationale là, au sein des pré-escapades en quelque sorte, c'est ça, parce que tu sais, l'été ils font les escapades, ouais. Qui est comme quelque chose d'assez joyeux où il y a quand même un festival, ouais. Tout ça, ouais. C'est dehors, c'est sympa. Et donc là j'ai vu sur leur petite brochure que tu étais dans les
Dans les escapades, c'est un programme qu'ils ont mis en place ici justement, ouais, pour faire une sorte de saison dans l'année en attendant le festival.
Ce qui est pas une mauvaise idée, parce qu'en général, tout se bouscule l'été, etc. Et des fois, c'est un petit peu pauvre entre les deux, tu vois.
Ouais, et puis ici, c'est une scène nationale de territoire. Donc, ils ont quand même un peu cette fonction d'occuper le territoire à l'année.
Bien sûr.
Donc, c'est facile de remplir. Enfin, facile, j'en sais rien, mais remplir ou avoir beaucoup de monde en plein été quand il fait beau et que c'est les vacances. C'est pas forcément très compliqué, alors que le 15 décembre, voilà, c'est un autre challenge. Et puis surtout, bah, c'est de la musique pour les gens d'ici, quoi. Donc ça, c'est cool.
D'accord. Alors donc au programme, j'ai vu, tu voulais présenter un album que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, alors que je crois qu'il date depuis un petit moment, qui était autour de Moondog, donc personnage pas bien connu quand même.
Alors en fait, ce programme, c'est le plus vieux de mes programmes que je tourne encore. Ça a été créé en 2014. Donc en fait, le programme, il a 10 ans.
Ouais.
J'ai regardé, en fait, je le joue quasiment tous les ans. C'est assez marrant. Ouais. Le truc qui se...
Boucle,
il se perpétue comme ça. Donc c'est marrant d'ailleurs parce qu'il s'appelle Perpetual Motion. Donc cette espèce de mouvement perpétuel qui fait que peut-être dans 20 ans, je serai encore en train de jouer ce programme. Mais ça me gêne pas parce que c'est un programme que j'aime beaucoup. C'est effectivement un programme autour de la musique de Moondog. Ouais. Alors Moondog, c'est le papa du minimalisme, de la musique minimaliste et répétitive. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Steve Reich et Philip Glass qui sont bien placés pour le dire parce que sur les premiers enregistrements de Moondog, les deux qui jouent des percussions, c'est lui, c'est eux deux.
D'accord.
C'est Steve Reich et Philip Glass qu'il y a sur certains enregistrements. Et Philip Glass a même hébergé Moondog, qui était un personnage un peu excentrique, un peu particulier, ça, bon, bref. C'est un personnage très compliqué, qui est pas résumable comme ça en 5 minutes. Il y a un truc très bien que les auditeurs peuvent faire, ça coûte 7€, chez Le Mot et le Reste, donc qui est un très bon éditeur. Il y a un livre qui s'appelle Moondog, qui a été écrit par Amaury Cornu, qui est un super bouquin. Ça fait 70 ou 80 pages, je sais plus, c'est vraiment un petit machin comme ça, et c'est génial. Voilà. Vous sortez de là, vous avez envie d'écouter tout Moondog, de découvrir le truc. Parce que le mec, ce compositeur, sa vie, c'est un roman, en fait. C'est complètement hallucinant. Il est devenu aveugle à la suite d'une explosion d'un bâton de dynamique avec lequel il jouait. Enfin, c'est pas trop. Après, tout est rocambolesque. Enfin, au début de sa carrière, il est, à la fois très reconnu par les musiciens new-yorkais, tout ça, et un petit cercle, ouais, assez fermé, et à la fois il vit en marginal. Il y a toute une partie de sa vie où, où il est clochard carrément, voilà. Donc voilà, il y a tout un délire qui n'est pas un délire, qui est assez fondé, qui est assez argumenté chez lui, qui a des liens avec les histoires de triangles, les histoires de géométrie, les histoires d'astrophysique, de tout ça, de tous ces trucs-là, qui font que lui se voit comme un héritier des Vikings. Donc il croit que les Vikings ça s'habillait avec des cornes et tout ça, jusqu'à ce que il y a quelqu'un qui disait les Vikings ils mettaient pas des cornes du tout, ils mettaient un chapeau en cuir. Donc du coup, du jour au lendemain, il finit les cornes et il met un chapeau. Donc il est aveugle, ce qui veut dire quand même, vous imaginez, aveugle, compositeur, clochard. À moitié clochard, quoi. Donc en fait, tout son fric, tout ce qu'il gagnait en droit, il l'utilisait pour faire passer sa musique de braille à musique écrite pour pouvoir la faire jouer. Il a eu un tube dans sa jeunesse. Alors il fabriquait ses instruments. Ça, c'est quand même un peu délirant quand on est aveugle. Donc notamment, il a fabriqué un instrument à percussion qui est triangulaire, évidemment. Parce qu'il y a tout un truc avec je me souviens plus, j'avais lu.
Je veux pas de la balalaïka quand même.
Non, il a fabriqué un instrument qui s'appelait la trimba.
Oui, d'accord.
Voilà.
Comme une kalimba, triangle.
Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est vraiment un instrument. Sur les enregistrements, vous l'entendez, c'est lui qui chante, c'est lui qui joue la percu. Cette espèce de percussion, je dis pour ça que je dis la percussion, cette percussion. Et après, je pense qu'il a passé sa vie à être très, 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 très mal entouré, très, très mal conseillé. Donc en fait, les moments où il a eu des succès, un peu des fulgurances comme ça, il y a quand même un disque chez Columbia qui a quand même un peu marché, enfin voilà, et il y a un tube. Voilà, il a écrit un tube planétaire.
Tu vas reprendre
qu'on joue, bah évidemment. Enfin, je veux dire, si on fait un hommage à Stan Getz et qu'on joue pas The Girl from Ipanema, on passe à côté du sujet. Donc, faut pas non plus. Puis, faut pas bouder son plaisir. Je veux dire, Bird's Lament, en l'occurrence, qui est son hommage à Charlie Parker, c'est un très beau morceau, quoi. C'était Voilà, et que tout le monde connaît parce que il a été utilisé
comme musique de film.
Non, ça je sais pas, mais en tout cas en France, c'était la musique d'une émission de télé qui passait sur France 3 dans les années 80 qui s'appelait La France est à vous. Voilà, je crois que c'était un truc qui passait à 13h le samedi, donc en gros, tout le monde a entendu ce truc là, ce truc, enfin bon voilà. Donc voilà, et il a été remis au goût du jour au début des années 2000 par un 90 par un DJ qui s'appelait DJ Mr Scruff qui a spolié son truc justement un peu. Voilà.
Et le disque de qui a fait Katia Labeck, parce que je sais qu'ils ont repris ça aussi, c'est d'ailleurs dans une maison prestigieuse, c'était chez Deutsche Grammophon. Tu sais que Katia Labeck avec quatre autres personnes ont repris les morceaux de Moondog.
Ah, je savais pas ça. Ouais. Alors bon, moi, je suis un peu partagé, je dois avouer, sur le côté compositeur classique, et on va jouer la musique comme elle est écrite. J'aime beaucoup, j'adore cette musique, mais je sais pas, je la trouve pas aussi puissante que du Steve Reich ou du Philip Glass, ou sans parler de, je ne sais pas, de Ligeti ou j'en sais rien, enfin, de musique du XXe siècle. Je la trouve parfois un peu trop simplette et naïve pour la, même si vraiment je l'adore, pour la jouer telle que. Et du coup, ce qui m'intéressait, moi, c'était de la replacer dans un truc très jazz. Donc d'y ajouter des plages d'improvisation, d'y ajouter un travail sur le son qui soit quelque chose qui la rende plus amusante à jouer, quoi, j'en sais rien. Alors est-ce qu'elle est plus amusante à écouter comme ça, j'en sais pas. Moi, je crois que oui, mais
tu parlais de perpetual motion, donc en quelque part, c'est aussi c'est un mouvement qui peut être aussi spiralé, c'est-à-dire qui simplement ne tourne pas en boucle, mais aussi évolue au fil des enregistrements, au fil des
clairement
des
voilà. Après, je sais que lui, toute sa vie, enfin, il a toujours dit qu'il voulait être considéré comme un compositeur, que son truc, c'était d'atteindre une espèce de perfection en composition. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que moi, c'est parfait, mieux c'est, mais ça, du coup, c'est voilà. Il était un peu obsédé comme ça par les canons parfaits. Il y a plein de canons chez lui, donc il disait que même il y a même des endroits où il dit que chez Bach il y a des fautes. Enfin bon, c'est assez rigolo quoi.
Mais ce que je crois avoir saisi aussi, c'est qu'il fréquentait quand même pas mal le philharmonique ou je sais pas quoi. Il allait quand même écouter.
Ah certainement, ouais.
Ça, il était très.
Ah non, mais une érudition incroyable, un savoir fou. Ouais. Enfin ouais, non. Voilà. Après moi, je sais pas. J'ai découvert cette musique par le directeur de Banlieue Bleue, le festival région parisienne, qui un jour m'a dit, tu devrais écouter, c'est marrant, ta musique, ça me fait penser à du Moondog.
Okay.
J'étais là, oui, bien sûr, oui, j'adore. Puis je connaissais pas, donc je suis quand même allé écouter. D'accord. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, effectivement, il y a des ressemblances, enfin, je veux pas du tout paraître prétentieux en disant ça, mais c'est juste que, on a, par exemple, Benjamin Flamand avec qui je joue, enfin, il a développé son instrument, qui est un instrument de percussion, qu'il a fabriqué lui-même, à mon contact, en faisant évoluer, son instrument en fonction de ce que moi je lui demandais, de ce qu'il avait envie de jouer. C'est pas un vibraphone, c'est pas des percussions, c'est des...
Et ça te fait penser à Moondog qui construit ses instruments?
Bah, il y a un lien entre ça, il y a un lien avec ça. Moi, je suis un grand fan de musique minimaliste et de musique répétitive, donc forcément les gens entendaient aussi certainement cette chose-là. Voilà, il y a beaucoup de flûte chez Moondog, c'est de la musique tonale, donc moi je fais quand même plutôt de la musique tonale, grosso modo. Voilà, donc je comprends, je vois ce qu'il voulait dire. C'était pas complètement, on m'aurait dit ta musique elle ressemble à du Schubert, j'aurais dit ah bon, d'accord, oui, merci. Voilà.
Et quelque part, puisque tu dis que l'album que tu as réalisé autour de Moondog, il est de 2013 quelque part.
Ouais.
T'en es encore imprégné aujourd'hui de justement de cette imprégnation. Ça marque encore. Tu retrouves un petit peu des accents qui en viennent.
Certainement. Enfin, probablement inconsciemment. Après, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je reprends ce programme, je suis hyper content de le faire. parce que j'adore cette musique, j'adore le programme, j'adore ce qu'on en a fait. On a construit une super dramaturgie à travers le répertoire. Je trouve que la façon dont on a agencé les morceaux est vraiment, je la trouve très judicieuse. Enfin, je la trouve sensée. Je trouve que ça fait un objet qui est chouette. Et je dis un objet parce qu'il y a pas juste de la musique, il y a un peu de mise en scène. C'est pas grand chose, hein, mais dans la version originale, c'était assez complexe, c'était assez balèze parce qu'il y avait un chœur de 80 enfants. Qui étaient des gamins de Seine-Saint-Denis, qui n'avaient jamais chanté, jamais, mais j'étais jamais monté sur une scène, qui étaient des gamins de collège 6e, 5e, avec qui j'ai travaillé pendant toute une année. la metteuse en scène Anne-Marion Gallois, elle avait tout mis en scène pour qu'il fasse les entrées, les sorties, qu'il y avait des espaces scéniques différents qui évoquaient les différentes périodes de la vie de Moondog, la partie new-yorkaise, la partie où il a vécu dans le upstate New York, donc plutôt dans la forêt où il s'était acheté une espèce de cabane, exactement, voilà. Puis après tout ça par toute son époque européenne. Enfin, il y avait tout un truc comme ça qui était une espèce de voyage, parcours, de parcours, oui, voilà, qui était super. Et puis on a fait un gros boulot de vidéo avec mon frère Maxence, avec lequel j'ai un travail au long cours sur les rapports entre images et vidéo. Image et son, oui. Donc vidéo ou photo selon les cas. Et notre idée, c'était de remettre un peu la musique de Moondog dans les rues de New York d'aujourd'hui.
Ah oui,
et, et en fait, on a fait oui. Dans le spectacle, là, il y a que trois vidéos finales. Enfin, il y en a une quatrième, mais on joue jamais ce morceau. Donc on a fait quatre vidéos, mais il y en a que trois qui seront utilisées régulièrement. Et je les trouve vraiment hyper belles. Il y a un morceau où on a jouer à l'image, quelque chose qui débute le spectacle. On l'a joué dans dans différentes situations, des lieux emblématiques de New York, un rooftop, enfin un toit, vraiment au centre de Broadway là,
et l'accueil,
à Times Square et tout ça, dans les rues, dans une espèce de boutique de, enfin vraiment dans des endroits comme ça avec des, voilà, un truc,
toutes les saveurs de New York, quoi, c'est ça,
un petit côté comme ça. Et le morceau commence à l'image et se finit sur le plateau, donc il y a un truc assez chouette là-dedans. Et puis il y a un morceau que j'aime beaucoup, qui a un montage au son. Donc c'est-à-dire on a coupé le montage, il est fait par rapport au son, et c'est le son qui fait la rythmique du morceau, oui, qui fait le tempo du morceau. Et à l'image, on voit plein de choses, mais notamment le personnage principal, c'est un clochard qui secoue sa sébile.
Ah oui, d'accord.
Enfin,
ouais,
tu vois, mais sauf qu'elle est en plastique, évidemment, elle est pas comme, c'est pas un truc très chic. Et il est handicapé, et il secoue son truc comme ça, et c'est ça qui fait le rythme du truc. Et il y a un vrai côté, on joue le truc de Moondog par-dessus. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui réussit.
D'accord, qui illustre un petit peu, c'est ça, qui souligne un peu l'ambiance.
Qui réussit ce qu'on avait projeté. Et puis un troisième truc qui est beaucoup plus ésotérique, avec des histoires de couleurs et tout ça, mais qui est très beau aussi, qui sont les lumières de New York, mais vraiment la partie Times Square, tout ça. Enfin, c'est...
D'accord, et donc ces images-là, on peut les voir sur quel support
Sur scène.
Sur scène. Là, par exemple,
vous allez les voir.
D'accord, okay,
elles sont
parfait.
Là. Elles sont là à chaque fois qu'on joue ce programme. Après... Dans la version originale, on a sorti un disque plus un DVD quand on a fabriqué le truc. Donc il y a un enregistrement du concert, il y a aussi un DVD qui est une sorte de DVD dans lequel il y a beaucoup de longs extraits du concert et des interviews. Les grands, enfin c'est pas des extraits en fait, il y a presque tout le concert par bout plus des interviews au milieu. Et là, il y a les vidéos dedans. Mais c'est pas la même chose je trouve que l'objet DVD, il est toujours un peu DVD qui projette des vidéos, c'est jamais très simple, quoi. Même si ça donne une bonne image de ce qu'est le spectacle, ça fait pas rentrer de la même manière que si on avait fait des montages plein écran du son. Enfin bon, bref, voilà.
Moi, ce que
c'est ça que je disais objet en fait, plus que concert. Voilà, parce que c'est un peu plus spectacle que juste un concert.
Parce que j'ai eu entre les mains donc cet album. J'ai découvert ton travail à travers justement ce disque.
D'accord.
Autour de Moondog, si tu veux, sans rien connaître. J'ai vraiment bien apprécié. Franchement, je me suis dit, tiens, j'ai écouté à travers des médiathèques, toi. Quand tu fais une émission de radio, tu peux pas t'acheter tous les disques, on te les envoie pas, surtout quand t'es une radio
à petit budget,
etc. Ouais. Et donc, il faut reconnaître le travail que font les médiathèques dans le choix qui est proposé, parce que quand même, c'est pas n'importe quoi, et c'est un petit peu grâce à leur travail aussi que j'ai pu découvrir ça. Et puis, par la même occasion, ça m'a intéressé, bien sûr, sur les musiques minimalistes, parce que, j'écoutais, justement, tu parlais de Phil Glass, et j'écoutais je lisais une interview d'un mec qui s'appelle Víkingur Ólafsson, qui est un pianiste, tu vois. Et il disait, lui, par contre, j'ai la chance énorme d'avoir pu travailler avec l'auteur vivant encore, tu vois. C'est-à-dire, ce qui est pas souvent le cas, quoi, tu vois. Et ça m'amène à poser la question, avec qui t'aimerais travailler, par exemple, comme un compositeur que t'apprécies, si toutefois t'en as un en tête, avec lequel t'aimerais travailler, par exemple. Pas vraiment?
Sûrement, mais là, tout de suite, j'ai pas d'idée. Mais sûrement,
tu vois.
Le truc, c'est que la plupart des projets que je fais, je les pense moi-même et je les compose moi, pour moi et les gens avec qui je fais des trucs. Donc,
Mais c'est vrai, c'est une bonne question, ça. Tiens, faudrait que je me la pose. Ben, là, j'ai pas la réponse.
D'accord.
On se revoit.
C'est ça, c'est parfait.
Non, mais c'est vrai que j'ai pas la réponse. Pourtant, j'écoute beaucoup de musique, tout ça, donc, s'il y a un gars avec qui je projette de faire un truc et dont j'aime beaucoup le travail, il est plus connu pour son travail de musique de film, il s'appelle Evgeny Kalperin. C'est un, avec son frère, ils font beaucoup de musique de film en ce moment, mais il a fait un disque très beau chez ECM.
Oui.
Et qui est plutôt musique électronique et trompette. Mmh. Et il m'a contacté. On est censé faire un truc du coup musique électronique instrumentale et saxophone. Je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais
ouais, le fruit tombe de l'arbre quand il est.
Il en est question. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Et j'espère que ça aboutira parce que j'aime beaucoup la façon dont il écrit. Il a un son très particulier à la fois dans ses productions électroniques et dans la composition. Et c'est un super compositeur.
D'accord.
C'est vrai que l'introduction de la musique électronique, ça a quand même changé beaucoup de choses. Enfin, je repense, toi, au premier Beaches Brew de Miles, soit ça fait boum, un changement.
De toute façon, et aujourd'hui, il y a plein de musiciens qui ne sont pas musiciens tout en étant des excellents musiciens. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de gens qui font de la musique à partir de musique électronique sans connaître réellement la musique. Je veux dire, comme nous, on l'a apprise et qui produisent une musique qui est hyper intéressante.
J'entends. Oui, tout à fait.
Qui est passionnante. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui font des trucs incroyables grâce à l'outil de production électronique. Ça, c'est clair.
J'entends bien. Oui. J'écoutais. C'est Johan Johansson. Tu vois qui c'est? C'est un.
Oui, oui.
Tu vois, hélas, disparu, etc. Et aussi, tu t'aperçois aussi qu'il y a tout un champ d'activité qui est la musique de film, quoi. Tu vois. Et t'as participé, par exemple, à des musiques de film ou?
Beaucoup. C'est vrai.
Ouais. Je fais beaucoup de films, je fais beaucoup de musique de films, j'ai fait beaucoup de documentaires. Mmh. Et là, j'ai un film en ce moment en cours avec un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ioannis Nuguet, qui a fait un film très beau qui s'appelle Spartacus et Cassandra,
oui.
Qui est une espèce de docu-fiction en fait, mais qui est un docu mais qui est monté comme une fiction. Donc on le regarde, on se demande. Et puis au bout d'un moment, quand on réalise que c'est un docu, on réalise qu'on avait oublié que c'était un docu. Mmh. Qui est un très très beau film, qui est un film de 2015 sur deux enfants roms avec lesquels il a vécu pendant longtemps. C'est quelqu'un qui fait un travail assez exceptionnel
de terrain
dans la durée et qui inscrit ses films dans ce terrain et dans cette durée. Donc c'est hyper intéressant. Voilà. Donc on a ça en cours, mais c'est très long.
Merci Sylvain Rifflet. Donc on va continuer à te suivre de point en point, etc. À travers, voilà, en espérant que ces projets se réalisent.
Ben moi aussi, j'espère.
Et que des surprises aussi viennent sur le
chemin. C'est clair, ça marche.
Merci, au revoir.